La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est notre invitée depuis 7h40 et jusqu'à 9h30. Si l'activité de l'Assemblée nationale reprend son cours normal, la loi Avenir professionnel repassera cet après-midi à l'Assemblée nationale en dernière lecture. L'avenir professionnel qui semble se dessiner pour l'instant, Muriel Pénicaud, ce sont les contrats courts et la flexibilité du travail. On en parlait dans le journal. Vous avez vu cette étude de la DARES. 30% des CDD aujourd'hui font moins d'un jour. Donc le CDD est encore la norme, mais pour combien de temps ?
Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous voulons lutter pas simplement pour la quantité d'emplois, mais aussi pour la qualité d'emploi. Parce qu'effectivement, depuis 20 ans, la précarité a augmenté et on embauche massivement en CDD et en intérim, avec aujourd'hui des règles qui ont contribué à finalement rester indéfiniment dans un système de précarité. Donc c'est pour ça qu'il faut modifier les règles avec les partenaires sociaux et c'est ça qui va être fait.
Donc mais bonus fondamental ou pas pour les entreprises ?
Oui, ça c'était un engagement présidentiel. On fera un bonus. Parmi les sujets, il y a le bonus malus.
Mais ça suffit pas au MEDEF en tout cas.
Oui, mais le sujet c'est savoir si c'est efficace. Est-ce que c'est normal qu'une entreprise qui elle essaie d'avoir des CDI le plus possible paye pour une autre qui ne fait que de la précarité
dans
alors qu'elle
secteur.
Est dans le même marché, même secteur. Bon, donc ça c'est une question de responsabilisation des employeurs. Mais c'est qu'un bout du sujet. Parce que les règles n'incitent pas non plus au retour à l'emploi. Donc il faut voir le sujet dans son ensemble. Mais au-delà de ça, je crois que il y a un sujet, effectivement, des emplois de demain. Ce dont on est certain, et ce qu'on ne sait pas, ce dont on est certain, c'est que les métiers vont être profondément transformés. Tout le monde peut le voir. Hein. Dans une TPE, un PME, maintenant on fait de l'e-commerce international.
Oui, vous le disiez tout à l'heure.
Y a pas dans le bâtiment, on a son tableur et on peut savoir ses effets CO2. Aujourd'hui, on cherche 80 000 emplois dans le numérique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de formation dans le numérique au départ. Avec le plan d'investissement compétences, la grande école numérique, on peut former quelqu'un qui sort en échec de troisième, quelqu'un qui est senior, quelqu'un qui a déjà eu une activité, à plein de métiers du numérique. Donc on a plein d'opportunités. Mais ce qui est certain, c'est que 50% des emplois vont être profondément transformés dans les 10 années. Et donc, c'est pour ça que l'enjeu de la compétence, c'est la première protection contre le chômage.
Mais sur la flexibilité, Muriel Pénicaud, en France, on a la flexibilité externe. C'est-à-dire qu'en fonction de son activité, l'employeur va moduler les contrats courts, l'intérim, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas, comme en Allemagne, la flexibilité interne ? C'est-à-dire on module le nombre d'heures des salariés, ce qui a été fait en Allemagne pendant la crise.
C'est exactement ce qu'on peut faire depuis les ordonnances. C'est exactement le but des ordonnances, c'est de renforcer le dialogue social pour donner plus d'agilité dans l'entreprise. Et donc maintenant, depuis la loi sur le renforcement du dialogue social, ordonnance, une entreprise peut négocier avec ses syndicats une flexibilité du temps, de la durée du travail. Vous avez un à-coup de marché, au lieu de faire que de l'externe, vous embauchez, vous pouvez embaucher, mais vous pouvez aussi adapter le temps avec vos salariés. C'est exactement le but des ordonnances, c'est de mettre la flexibilité à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité, c'est-à-dire il y a une sécurité de l'emploi, il y a une sécurité pour le salarié, et en même temps, il y a une flexibilité qui permet aux entreprises d'être agiles et conquérantes.
Mais on nous parle de flexibilité et puis de flexi-sécurité depuis quelques années, depuis 30 ans, mais le plein emploi n'est toujours pas là.
Personne n'avait fait la réforme du travail qu'on a faite, cette ampleur-là. Et maintenant, le sujet, c'est effectivement que les entreprises s'en saisissent, mais c'est aussi pour ça, parce que maintenant, il y a cette flexibilité à l'intérieur, si on négocie bien, qu'il n'est pas question non plus d'accepter une flexibilité externe excessive et que nous voulons lutter contre la flexibilité excessive à l'extérieur.
Et jusqu'à présent, les entrepreneurs, et là je pense vraiment aux grosses entreprises du CAC 40, je ne pense pas aux PME, mais ce qui justifiait les entrepreneurs, ils justifiaient leurs profits par leur prise de risque. C'est l'entrepreneur qui prend le risque et pas le salarié, donc l'entrepreneur touche des profits et les salariés leur salaire. Sauf que là, l'entrepreneur ne prend plus de risque puisqu'il adapte sa masse salariale à ses besoins. Donc Muriel Pénicaud, est-ce qu'il faut reverser une partie des profits aux salariés ? Alors, c'est toute une philosophie qui s'est renversée ces dernières années.
Il y a deux sujets. La première, c'est que je ne crois pas, et moi depuis longtemps, j'ai plus de 20 ans d'expérience de dirigeante en entreprise, je ne crois pas à une entreprise qui n'a comme but social que de faire du profit pour ses actionnaires. Il faut que les actionnaires aient le retour de leur investissement.
Quand vous allez à la banque, les stocks options, ça présente notamment chez Danone.
Quand vous placez de l'argent, vous avez besoin du retour. Mais c'est pour ça, c'est tout le projet qui sera dans le projet de loi Pacte que portera Bruno Le Maire. Et suite au rapport que nous avions demandé ensemble, et avec Nicole Belloubet, Nicolas Hulot et Bruno Le Maire, nous avions demandé à Jean-Dominique Sénard, qui était président de Michelin, et à Nicole Nota, de faire un rapport là-dessus, qui est justement la vision de l'entreprise de demain. La vision de l'entreprise de demain, c'est qu'elle tient compte compte de ses impacts sociaux environnementaux et elle tient compte de ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire ses salariés, ses fournisseurs, ses clients, son territoire. Et c'est, je crois qu'il faut évoluer et que l'Europe peut être vraiment le creuset de ce modèle d'une entreprise qui est plus équilibrée et du coup qui est plus durable. Pour moi, la croissance durable ne peut pas se faire au détriment de certains.
Oui, enfin,
donc
Europe...
le partage de la valeur fait partie du sujet et c'est pour ça que dans ce projet de loi, on va supprimer le forfait social pour les petites entreprises, en clair pour que dans les petites entreprises aussi, on puisse avoir de l'intéressement. Aujourd'hui, il n'y a que 16% des salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ont droit à l'intéressement. Et donc, il faut aussi que ce partage de la valeur augmente, parce que je crois qu'une entreprise qui réussit, c'est tout le monde en bénéficie.
L'aboutissement de la logique de flexibilité, c'est la Grande-Bretagne, le contrat zéro heure, les gens viennent au travail et sont payés seulement les heures où l'employeur a besoin d'eux, en attendant, ils sont sur une chaise.
Oui, et ben ça, c'est pas notre modèle du tout, et moi, je ne ferai jamais ça, parce que c'est... Je pense d'ailleurs, c'est intéressant, Royaume-Uni a fait ça, ce qui est socialement et franchement très critiquable, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont 20% de productivité de moins que la France. Pourquoi ? Parce que comment voulez-vous demander de la productivité et de l'engagement à des gens qu'on jette comme ça ? Enfin, moi, c'est pas du tout le modèle de ce qu'on veut faire.
Donc le modèle, c'est quoi ?
C'est le modèle, c'est la flexi-sécurité à la française. On est beaucoup plus inspiré par les pays nordiques, Danemark, Suède, etc. Mais c'est qu'il y a un équilibre et qu'on peut avoir, à la fois... plus de personnes qui ont une sécurité, mais la sécurité de l'emploi, c'est intéressant au Danemark, en Suède. La sécurité, c'est pas l'emploi, c'est la sécurité sur la personne. Ce qu'il faut sécuriser, c'est la personne. Parce que on changera d'emploi, on changera de métier, on changera d'entreprise et on changera de statut dans sa vie. Mais si vous avez la sécurité d'être sûr de retrouver du travail, c'est pas la même chose. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est protéger les personnes et pas les statuts.
La philosophie politique qui est en train de se dessiner tout ça, c'est une société fluide, un monde où on pourrait se former tout au long de sa vie, où on peut passer d'une entreprise à l'autre, d'un métier à l'autre et même d'un statut à l'autre, alors que localement, c'est vrai qu'on voit que les Français sont quand même attachés à leur territoire,
oui, tout à fait.
Qu'on voit jamais un ouvrier du textile aller voir une usine de métallurgie en disant je faisais du textile, formez-moi,
c'est
je voudrais
dommage.
Faire de la métallurgie.
Les métiers sont très proches en fait.
Michel Foucault, dans Naissance de la biopolitique, décrivait l'homo economicus dans une perspective libérale comme un entrepreneur de lui-même qui est à lui-même son propre capital. Vous faisiez sien ces mots-là, ces mots-là.
Oui, avec un ajout. C'est-à-dire que je pense que chacun est le projet de loi, il s'appelle « Liberté de choisir son avenir professionnel ». Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une grande partie des salariés, des actifs, n'ont pas l'impression du tout de choisir leur avenir professionnel. Donc si on arme, on outille chacun pour qu'il puisse évoluer en permanence, c'est aussi important dans le monde qui change, c'est aussi important qu'avoir créé l'école pour tous il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, c'est pas l'école, mais c'est la capacité à progresser et à apprendre toute sa vie. C'est ça qui va donner la liberté, c'est ça qui va donner les gens. Je suis d'accord avec ce que dit Michel Foucault, j'ajouterai...
Enfin non, lui il le dit pas, mais en tout cas il décrit l'économie libérale.
Mais à condition, oui. Il manque un morceau. Dans ça, c'est la solidarité. Parce que ça doit être une garantie collective. Dans le projet de loi Avenir Professionnel, on va permettre à chacun des 26 millions d'actifs d'avoir un compte personnel en euros. C'est-à-dire que vous allez pouvoir décider pour vous-même des formations, que votre employeur soit d'accord ou pas. Et ça, il y a une partie qui est financée par les employeurs, c'est normal, c'est leur responsabilité de faire évoluer leur entreprise et leurs salariés, mais il y a une partie où chacun pourra, il aura son appli, il aura son compte, et il pourra choisir lui-même, parce qu'on peut vouloir changer de métier, pouvoir changer d'entreprise ou progresser dans la carrière.
Mais ça se dessine donc, surtout au cadre, ça, à
non,
ceux qui ont
tout,
une vision
tout,
déjà
demande,
de,
ah non, ça, c'est une idée,
du marché du travail.
Mais le monde a changé, les gens. Il y a des tas de gens. Moi, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue en disant ça arrive comment ? Mais c'est pas forcément des cadres. Les cadres, ils ont. Vous savez, c'est pourquoi c'est pas que les cadres ? Parce que les cadres, ils ont déjà accès à la formation. Deux tiers des cadres vont en formation chaque année. Mais c'est seulement un tiers des ouvriers et des employés, et c'est seulement un tiers des salariés des petites et moyennes entreprises qui ont beaucoup moins de droits que les autres. Donc on va donner le droit à chacun, et ça je crois que ça fait partie de cet équilibre. Les entreprises doivent être agiles, mais chacun doit pouvoir, et ça c'est la solidarité collective, doit pouvoir avoir le droit aussi de se former, d'évoluer, d'avoir une promotion dans la vie. Enfin, la promesse républicaine, c'est l'émancipation, mais garantie par toutes.
Mais on reprochait au droit individuel à la formation, qui est
mais
donc
il n'existe pas aujourd'hui. Hein. Mais,
non, mais
c'est
une
fiction.
En tout cas, on reprochait à ce qui existait jusque-là, on lui reprochait d'être inégalitaire, de favoriser toujours les mêmes. L'apprentissage aussi, on dit que quand même les études sociologiques montrent que les apprentis sont globalement des hommes blancs. Voilà, la promesse républicaine, comment on l'intègre dans cette nouvelle vision de l'économie et de la société ?
Alors, je pense que d'abord, il faut permettre l'émancipation sociale. individuelle et collective. Quand quelqu'un se forme, qu'il habite un quartier prioritaire de la ville, où il y a une énorme discrimination, et là où les jeunes ont moitié moins d'accès à l'apprentissage aujourd'hui, donc on va aller faire des CFA aussi pour les jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Quand quelqu'un se forme, c'est comme dans l'équipe de foot, quand quelqu'un se forme, il se forme pour lui, pour être meilleur. Pour un salarié, ça serait se protéger contre le chômage, c'est pouvoir avoir une promotion, c'est pouvoir progresser, s'adapter au futur, anticiper le futur, pas avoir peur du futur. Mais ça fait bénéficier toute l'équipe. Et ça fait bénéficier la nation, si je veux dire. Chaque fois qu'on se forme, on monte le niveau de compétence de tout le monde. Non, pas premier de cordée, tous dans la cordée. Il faut les premiers, mais il faut tous. Dans une cordée, il faut tout le monde. Hein. On a besoin de tout le monde. Et c'est justement ça qu'on va aller chercher avec le plan d'investissement compétences. On va former 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi avec priorité aux outre-mer, aux zones rurales, aux quartiers prioritaires de la ville, aux seniors, tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas accès et qui voient le train de la croissance passer, le train des transformations, ils se disent « mais moi j'ai pas de place là-dedans ». Si, on a besoin des jeunes, on a besoin de tout le monde.
Vous avez vu comme la flexibilisation de l'emploi ces dernières années a aussi pesé sur les salaires, exercé une pression sur les salaires. On n'est pas très très loin du bois de Vincennes. Vous y êtes peut-être déjà passé. Des travailleurs pauvres y vivent parce que leur salaire ne suffit pas à assurer leur subsistance. Vous voulez redonner de la valeur au travail. On fait quoi pour les salaires? Le salaire minimum, on fait quoi pour
On a le salaire minimum le plus élevé d'Europe. Donc, une des choses auxquelles il faut faire attention aussi, c'est ne pas créer du dumping social. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est battu, on a gagné, je dirais, collectivement, mais à l'initiative de la France, la directive sur les travailleurs détachés. C'est pour ça qu'on veut aussi le partage de la valeur. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, développer l'intéressement participation, c'est du partage de la valeur. Quand l'entreprise va mal, tout le monde en pâtit, les salariés aussi. Parce que c'est là qu'il y a des plans sociaux, parfois brutaux. Quand elle va bien, il faut que tout le monde en bénéficie, parce que c'est l'œuvre collective. Et donc c'est pour ça qu'il faut développer aussi l'intéressement, participation, tout ce qui fait qu'il y a un partage de la valeur. Et par contre, il faut créer la valeur pour pouvoir la partager. Sinon, ça ne marche pas.
Muriel Pénicaud, l'égalité homme-femme dans l'entreprise, l'égalité de salaire, l'égalité de traitement.
Alors, c'est la grande cause du quinquennat annoncée par le président de la République. C'est aussi un volet important du projet de loi Avenir professionnel. Aujourd'hui, il y a 9% d'écart de salaire à travail égal. Vous rendez compte, 45 ans après la loi qui l'oblige. Alors, il y a Simone de Beauvoir qui disait que, en fait, l'autonomie financière, c'est la liberté la plus importante, la plus grande conquête, c'est par le travail. Pour les femmes, parce que c'est ce qui donne la liberté de dire non, la liberté de dire oui. Et pour ça, on a fait une concertation très approfondie avec les partenaires sociaux et avec Marlène Schiappa, et on a des mesures importantes dans la loi. On va passer à une obligation de résultat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Allez, Muriel Pénicaud, pour conclure, vous disiez tout à l'heure, on expliquait à peu près la philosophie politique de tout ça, chacun est responsable de lui-même, chacun est entrepreneur de lui-même. Vous disiez tout à l'heure, 2 900 000
chacun a le droit
chômeurs,
à l'émancipation.
Chacun a le droit à l'émancipation. 2 900 000 chômeurs selon les chiffres du BIT. Moi, tout à l'heure, j'avais les chiffres de l'INSEE.
BITNC,
j'avais des chiffres d'un autre organisme. Ces chômeurs, on leur reproche aussi de ne pas chercher un emploi, de ne pas être à la recherche d'un emploi. Or, 2 900 000 chômeurs, en face, il y a 220 000 à 300 000 emplois vacants, sans compter les entreprises qui postent des offres d'emploi uniquement pour se constituer une base de CV, mais sans emploi derrière, on le sait, les chiffres des emplois vacants sont gonflés. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la faute de ces chômeurs s'ils ne trouvent pas derrière d'emploi?
Alors, il y a beaucoup de choses qui seraient à dire sur tout ce que vous avez dit. Je ne les commente pas dans le détail, parce qu'il y en a qui sont... Voilà. Sur lequel j'ai peut-être une lecture différente. Par contre, tout ce que vous venez de dire confirme une chose, il faut faire une grande réforme de l'assurance chômage. Et deuxièmement, je voudrais insister une chose, ce projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est une grande loi d'émancipation sociale. Moi je crois à ça, je crois au potentiel humain, je crois que chacun peut apporter quelque chose, qu'on soit handicapé, qu'on habite dans un quartier prioritaire de la ville, et c'est ça qu'on veut mettre en valeur, c'est tout le potentiel de chacun. Ça ne sera jamais parfait, mais on peut faire un grand pas dans cette voie-là grâce à cette loi.
Merci Muriel Pénicaud d'avoir été notre invitée, d'avoir été avec nous ce matin. Donc le projet de loi Avenir professionnel est en deuxième lecture à l'Assemblée cet après-midi, si le cours normal de l'hémicycle reprend son cours. Et puis vous espérez le vote de cette loi le 1er août. Donc on va suivre tout ça. Merci beaucoup. Merci. Madame la Ministre.